Je me sens un peu comme le prophète Agé ce matin. Si tu ne connais pas Agé, on va apprendre à le connaître ensemble ce matin. Agé, c'est un prophète dans l'Ancien Testament. C'est un homme qui parlait au nom de Dieu. C'est littéralement ce que veut dire prophète, c'est une personne qui parle au nom de Dieu, comme un porte-parole de Dieu. Et Agé a un livre qui porte son nom, qui est un tout petit livre dans l'Ancien Testament. Et on se retrouve dans l'histoire environ 500 ans avant la naissance de Jésus. Donc, on est vraiment vers la fin de l'Ancien Testament. Et Agé avait vraiment un mandat difficile. Il n'y avait pas une job facile, Agé, parce que même si son livre est très, très court, un des plus courts de toute la Bible, même si son livre est très, très court, son message était très important. Et un message qui était très, très, très challengeant, donc c'était pas facile. Alors, je me sens un peu comme Agé, porte-parole d'un message challengeant ce matin. Et pour vraiment, avant de plonger dans le texte, juste comprendre le contexte, le peuple de Dieu revient de ce qu'on appelait l'exil. Ils ont été exilés, tout éparpillé partout, et c'est dans une saison où ils reviennent. Ils étaient à Babylone, ils reviennent, certains reviennent. Les historiens vont dire qu'ils estiment environ peut-être 50 000 personnes qui revenaient, qui étaient là, et ils reviennent dans des ruines. Ce qu'ils avaient quitté des années auparavant, et maintenant des ruines, et sont dans le processus de juste tout rebâtir. Ils rebâtissent leur vie, ils rebâtissent leur maison pour avoir un toit sur leur tête, ils rebâtissent leur famille, ils rebâtissent leur business, leurs entreprises, juste recommencer à vivre. Et pendant qu'ils sont en train de tout rebâtir ça, Agé va challenger, va mettre au défi les priorités du peuple. Il va venir challenger les gens qui sont dans Agé, le peuple de Dieu qui est là. Et la raison est vraiment simple. C'est que lorsqu'ils sont revenus de l'exil, dans les deux premières années, le peuple bâtissait évidemment leur maison, leur vie, etc., mais il avait aussi recommencé à rebâtir, reconstruire la maison de Dieu. Et nous, on comprend aujourd'hui que la maison de Dieu, c'est pas juste de la brique puis du mortier. Ultimement, la maison, la maison de Dieu, c'est toi et c'est moi. Le temple du Saint-Esprit, c'est moi, c'est toi. Ensemble, c'est ça le corps de Christ. C'est pas juste des bâtiments physiques. Dieu n'est pas plus dans un bâtiment physique qui est plus dans nos cœurs. Mais à l'époque d'Agé, le temple était quelque chose de très, très, très important. Le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore révélé pleinement. Puis alors qu'ils bâtissent le temple, c'était pour eux, c'est là que Dieu réside. Et c'est surtout un endroit juste de montrer, alors qu'ils bâtissent le temple, c'est une façon de montrer que Dieu était prioritaire pour eux. Et dans les deux premières années, ils bâtissent tout. Ils bâtissent leur maison, commencent à bâtir la maison de Dieu. Mais les historiens vont dire qu'après environ 2 ans, ils ont arrêté de bâtir la maison de Dieu. Le texte, l'histoire va nous dire qu'il y avait la fondation qui était là. Il y avait moins de temps de faire la fondation de la maison de Dieu. Il y avait bâti l'autel de Dieu, là où les sacrifices étaient offerts à Dieu. Mais ils avaient arrêté de construire la maison de Dieu. Mais pourtant, ils ont continué. Ils ont continué de bâtir leur vie, de bâtir leur carrière, de bâtir tout ce qui entourait leur entreprise, leur champ, leur bétail. Ils ont tout continué de bâtir ça. Les historiens vont dire qu'alors que Agé arrive en scène, ils vont dire qu'il s'en fait environ entre 14 et 18 ans que les travaux dans la maison de Dieu sont arrêtés. Alors, tout le monde bâtit sa vie partout. Bâtissent leur vie, bâtissent leur futur, bâtissent tout ce qu'ils avaient bâti. Mais ça fait entre 14 et 18 ans que la maison de Dieu était négligée. Que la maison de Dieu était inachevée. Et c'est là que Dieu va envoyer Agé pour confronter les priorités du peuple. On va plonger ensemble dans Agé chapitre 1, verset 1. Est-ce que vous êtes là ce midi? Est-ce que vous êtes encore confortable? J'espère, parce que ça va être de moins en moins confortable. Ça s'en vient. Agé 1, verset 1. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, le fils de Shéthiel, et au grand prêtre Josué, fils de Josadac, plein de noms créatifs pour vos futurs enfants. Voici ce que l'Éternel dit, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, voici ce que les gens disent. Il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison d'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons, lambrissées? Lambrissées, ça veut dire littéralement comme si tout le revêtement de leur maison est terminé. Lorsqu'une maison était lambrissée, c'est pas juste un projet de construction. Ça veut dire que c'était pas mal fini. Tout était bien, le revêtement était là. Il est en train de leur dire, est-ce que c'est le moment pour vous d'habiter dans vos maisons qui sont toutes finies, tout est parfait, quand le temple est détruit, quand la maison de Dieu est détruite? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillé, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Dernier verset, verset 8. Montez sur les collines pour y chercher du bois et rebâtissez mon temple. Alors je serai heureux d'y recevoir l'honneur qui m'est dû. Je le déclare, moi, le Seigneur. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est la preuve de mes priorités. Qu'est-ce qui va prouver que quelque chose est important pour toi? Qu'est-ce qui prouve les priorités d'une personne? Ce midi, moi, j'aimerais te suggérer que ce qui prouve ultimement les priorités d'une personne, ce n'est pas ce qu'elle dit, ce n'est pas ce qu'elle promet, mais ce qui va prouver les priorités de quelqu'un, c'est ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Je vais faire un séminaire de couple pendant une minute ce matin. Qu'est-ce qui prouve l'amour que ton conjoint peut avoir? Est-ce que c'est ses paroles et ses promesses ou c'est ses actions? Est-ce que c'est toi, Seigneur? Ton serviteur écoute, on est prêt. Qu'est-ce qui prouve que ton conjoint ou ta conjointe t'aime vraiment? Lorsque je rencontre des couples qui vont se marier, on en parle de ça. Parce que ce qui va prouver l'amour, c'est pas juste les belles paroles et c'est pas juste les promesses, mais c'est les actions. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Surtout ceux qui sont pas encore mariés qui écoutent ce message, si tu fréquentes quelqu'un, ne fais pas simplement écouter ce qu'il te dit. Regarde ce qu'il fait, parce que c'est ça, ses vraies priorités. Alors, si tu as dit, non, je vais t'aimer pour la vie, tu vas être ma priorité pour la vie, tu vas être ma numéro un pour la vie, si t'es pas déjà le numéro un dans sa vie, tu le seras pas dans 10 ans. Prêche, pasteur GB. Il y en a ici, tu te demandais, est-ce que c'est le bon? C'est peut-être plus le bon à partir de maintenant, tu sais plus. C'est pas suffisant de juste dire, je t'aime. Non. Ultimement, les priorités sont prouvées par des actions. Je suis supposé le voir, on est supposé le voir dans la vie de quelqu'un. C'est la même chose si quelqu'un, par exemple, me dit, moi, la ponctualité, c'est super important, c'est une priorité dans ma vie. Comment ça se fait que ça t'es toujours en retard à l'église si la ponctualité, c'est une priorité pour toi? Si la réunion est à 12h30 et pas à 12h48, elle est à 12h30, je devrais arriver à 20 pour être sûr de prendre un café gratuit comme ça, saluer des gens et arriver prêt à louer Dieu lorsque la réunion commence. Si la ponctualité est importante, tu vas être à l'heure. Quelqu'un nous emmène à ça. Parce que tout le staff dit amen, ça, c'est sûr. Amen. Parce que ce qui va prouver que quelque chose est important, c'est jamais juste les paroles, mais c'est les actions. Et c'est ça que Agé va adresser. Parce qu'il y avait un décalage. Il y avait un décalage entre ce que le peuple de Dieu disait et ce que le peuple de Dieu faisait. Et Agé va adresser ce décalage-là. Il y avait un gap entre les deux. Vous dites une chose, mais vos actions montrent autre chose. Et c'est ça que Agé va adresser. Agé va être en train de leur parler en disant, je pense pas que, Agé va pas dire, Dieu n'est pas important pour vous. C'est pas ça qu'Agé va dire. Parce que le peuple n'a jamais dit, oh non, mais nous, Dieu, là, il nous a sortis de l'Égypte de plusieurs générations. On est là, il nous a ramenés de l'exil, mais maintenant, c'est plus pour nous. Le peuple n'a pas dit, Dieu est plus important. Et je crois que la majorité des gens qui ne font pas la volonté de Dieu, c'est pas juste des gens qui sont contre Dieu ou qui veulent pas de Dieu, c'est juste des gens qui sont trop étourdis par tout le reste de la vie, qui oublient Dieu. Et c'est ce qui se passe avec le peuple de Dieu, parce que le peuple va jamais dire « Dieu est pas important ». C'est juste qu'ils disent « pas maintenant ». Et Agé va adresser avec le peuple le problème que je sais que si personne ne lutte avec ça, mais à l'époque d'Agé vraiment, et dans d'autres églises ailleurs, ici il y a d'autres gens, oui, mais ici, personne lutte avec la procrastination. Je sais qu'ici, tout le monde est vraiment à ses affaires, qu'ici, tout le monde, tout ce qu'il dit qu'il va le faire, le fait dans le temps qu'il a dit qu'il allait le faire. Mais à ce moment-là, il y avait un problème de procrastination parce que le peuple disait pas « on veut plus de Dieu ». Le peuple disait juste « ah, oh, mais pas maintenant. On n'a pas le temps. Ah, oh, ben on va le faire. C'est vraiment, oui, on va rebâtir la maison de Dieu, mais plus tard. Je vais juste le repousser dans une autre saison. » Par définition, procrastiner, c'est retarder une chose ou remettre à plus tard une chose par manque de volonté ou par manque d'envie. Ça ne me tente juste pas de le faire. Ça ne me tente pas de le faire où j'ai d'autres choses qui sont plus importantes pour moi, donc je le repousse plus tard. Encore une fois, je sais que si personne lutte avec la procrastination, mais prenez des notes, vous allez pouvoir le prêcher avec d'autres personnes qui ça concerne vraiment. Exemple de procrastination. Il y a plein de gens qui disent, je sais par exemple, il y a des étudiants, pas ici, mais il y a des étudiants qui vont dire, je sais que je devrais étudier, je sais que je devrais faire mes travaux, je sais que je devrais me mettre dans mes livres. La session est commencée depuis un petit bout, je suis déjà en retard, mais il y a une nouvelle saison de Love is Blind qui vient juste de sortir sur Netflix. Puis là, c'est pas encore le deadline pour mon examen. Fait que je pense que je peux juste écouter les 6 premiers épisodes qui sont déjà sortis. Puis après ça, j'aurai encore du temps pour étudier. Est-ce qu'il y a des étudiants qui se reconnaissent là-dedans? Levez votre main ici. Seigneur, je te prie pour un esprit de vérité dans cette 3e réunion. C'est comme il y en a qui disent, je sais, je vais me prendre en main. Il y en a qui disent, la santé, c'est vraiment important pour moi. Oui, mais comment ça se fait que je te vois manger du McDo 5 fois par semaine? Puis jamais tu vas au gym. T'as raison, Pasteur JP. Je vais aller au gym. Parfait, go. Tiens-tu, je suis là demain, lundi. Ouais, mais. Parce que là, mon horaire est vraiment rempli. Ce que je pense faire, c'est que je vais probablement m'inscrire en janvier. parce qu'en janvier, ça va être les résolutions, puis je vais comme commencer l'année sur le bon pied. Fait que je vais attendre en janvier pour partir l'année du bon pied d'une résolution. Puis, sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Tu vas t'inscrire en janvier, tu seras plus là en mars. Puis tout l'automne, tu aurais pu te mettre en forme, puis tu le feras pas. Pourquoi? Parce que tu as procrastiné. Ça veut dire que c'est possible de procrastiner aussi spirituellement. C'est-à-dire, j'aimerais ça prier. J'aimerais ça avoir du temps pour prier. J'aimerais ça du temps avec Dieu, mais j'arrive pas, j'ai tellement d'autres choses à faire. J'ai tellement, puis je suis trop fatigué parce que j'ai écouté Love is Blind jusqu'à 2h du matin. Puis là, je suis trop fatigué pour prier. Je voulais me lever le matin, mais je suis pas capable, fait que je vais le faire plus tard. Mais de toute façon, Dieu voit mon cœur. Dieu voit mon cœur. Justement, c'est ça le problème. C'est quoi ton cœur? Ah, je sais que je devrais servir. Mais j'ai pas le temps. Je suis tellement occupé. J'ai mes études, j'ai les enfants, j'ai le travail, j'ai ci, j'ai ça. J'ai les gens qui servent. Je comprends pas comment ils font, mais moi, j'ai juste pas le temps de servir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes encore confortable ce matin? Parfait. Ça s'en vient. Ça s'en vient d'abord. Alors, je sais, la Bible me dit, je dois honorer le Seigneur, je dois honorer Dieu avec mes finances, mais je gagne pas assez d'argent en ce moment. C'est juste pour ça que je donne pas. C'est juste pour ça. Mais peut-être qu'un jour, quand je vais avoir ma nouvelle job, mon plus gros salaire, quand je vais être plus établi, le Seigneur, je vais donner. Est-ce que vous êtes encore confortable ce matin? All right, ça commence. Savez-vous que c'est possible de spiritualiser notre procrastination? Lorsqu'il y a Dieu nous appelle à être certaines choses, ou à développer certaines choses, ou à faire certaines choses. Et là, il y a des phrases qui vont être comme des phrases célèbres que j'entends tout le temps. « Oh, mais pasteur JP, moi, c'est peut-être ton appel, mais c'est pas mon appel. » Peut-être que toi, pasteur JP, t'es appelé à servir. Moi, c'est autre chose. Il y en a, par exemple, c'est ce qu'il appelle la générosité, l'appel de donner. Pasteur JP, il y en a pour qui dans l'Église, ça, c'est leur appel. Parce que regarde comment Dieu les a bénis. Regarde leurs ressources. Regarde leur compte de banque. Regarde leur voiture. C'est ces gens-là qui sont appelés à être généreux. C'est eux qui en ont des ressources. Moi, le pasteur JP, regarde ma vie. Je suis pas appelé à la générosité, clairement. Regarde, j'en ai pas. C'est pas mon appel. Spiritualiser notre procrastination. Donc, voici ce que Dieu nous demande, mais je vais trouver toutes sortes de choses pour dire non, pas maintenant. C'est pas pour moi, ça. J'en ai un autre. Est-ce que vous êtes prêts? Des phrases comme « c'est pas mon appel, je l'entends », mais des phrases aussi comme « ok, pasteur JP, je vais prier là-dessus. Je vais prier là-dessus. J'aimerais juste te dire avec beaucoup d'amour ce matin, il y a probablement beaucoup de choses dans nos vies là, qu'on a besoin de prier plus. Ok, j'ai besoin de la direction de Dieu, on a besoin de la sagesse de Dieu, du discernement de Dieu. Mais il y a aussi une large portion de la Bible où t'as pas besoin de prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu pour ta vie. T'as juste besoin d'obéir à ce que Dieu t'a demandé. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Est-ce que vous êtes encore confortable ce matin? Alright. Il y a des choses qui nécessitent la prière, mais il y a une large portion de la parole de Dieu qui nécessite pas qu'on prie là-dessus. Qui nécessite plus qu'on prenne des décisions de dire ma vie va honorer la parole de Dieu parce que Dieu me le demande. Point final. Amen. Vraiment, amen. Je n'ai pas besoin de prier pour savoir si je dois pardonner quelqu'un. Ah, je peux prier de « Seigneur, donne-moi la force de pardonner », mais je ne devrais pas avoir à me demander est-ce que je lui pardonne ou pas. C'est « Seigneur, je sais que ta volonté, c'est que je pardonne et que j'accorde le pardon comme tu m'as accordé le pardon. Maintenant, donne-moi ta force pour pardonner parce qu'humainement, je ne suis pas capable. » Ça, c'est correct de prier là-dessus, pas savoir est-ce que je dois pardonner ou pas. J'ai pas besoin de prier pour savoir est-ce que je devrais servir les autres. On est appelé serviteur et Jésus a incarné lui-même en lavant les pieds de ses disciples. Je suis venu pour servir, pas pour être servi. T'es appelé à servir, je suis appelé à servir. On est tous appelés à servir. Quelqu'un dit amen à ça. Je devrais même pas avoir besoin de prier pour savoir est-ce que je vais aller à l'église ce dimanche. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je sois à l'église? Tu devrais jamais avoir besoin de prier là-dessus. Puis je comprends que la vie, puis il y a toutes sortes de choses, mais si je suis disponible, si je suis pas à l'extérieur, Seigneur, c'est même pas une question de savoir ce que je suis à l'église. Je veux être à l'église parce que je veux consacrer quelques heures dans ma semaine où je veux juste venir dans ta présence pour te louer, pour t'adorer, pour te remercier pour qui tu es, pour ce que tu as fait dans ma vie. Et ça, tu mérites que je fasse ça, Seigneur. Je devrais même pas avoir besoin de prier là-dessus. C'est juste, Seigneur, c'est tellement important pour moi que je veux consacrer une partie de ma semaine pour toi. Juste pour venir te louer, Seigneur. Je devrais pas avoir besoin de prier pour savoir, Seigneur, est-ce qu'il y a une portion de mes finances que je devrais t'accorder, Seigneur? Je devrais pas avoir besoin de prier, c'est Seigneur, est-ce que tu m'appelles? Est-ce que vous êtes le groupe avancé des trois réunions? Fait que je vais avec plus. La vraie prière, c'est Seigneur. Est-ce que tu m'appelles à donner seulement la dîme ou plus? Amen à ça. Seigneur, c'est qu'est-ce que tu m'appelles à donner? Pas est-ce que tu m'appelles à donner, Seigneur? Et c'est ça qu'Agé adresse avec le peuple. Parce que le peuple procrastinait la volonté de Dieu. Il y a des choses claires que Dieu leur avait demandées, mais le peuple remettait à plus tard, remettait à une autre saison. Il dit, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voici ce que le peuple disait. Il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. C'est comme si le peuple est en train de dire, c'est pas que c'est pas important pour nous, c'est juste pas le bon temps pour nous. C'est pas qu'on n'aime pas Dieu, c'est juste pas le bon timing. C'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on renie Dieu, c'est juste qu'en ce moment, on a des choses plus importantes à faire. Et Agé qui va répondre, verset 4, « Est-ce que c'est le moment, en fait, pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? » Et Dieu va continuer à travers Agé en disant, « Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? » déclare l'Éternel, le maître de l'univers. « À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. » Ce qui est fascinant dans le livre d'Agé, c'est que à aucun endroit, Agé va se mettre à dire que les maisons des gens, c'est un problème. Il ne va jamais dire qu'il y avait un problème avec les belles maisons, avec les belles voitures, avec le fait qu'il y avait le nouveau iPhone qui vient de sortir. Agé ne va jamais dire que ces choses-là sont mal. Il ne parle pas contre les maisons, il ne parle pas contre leurs avoirs, il ne parle pas contre leurs conditions. Nulle part dans la Bible, Dieu va s'opposer aux belles choses. Il n'y a aucun endroit où vous allez trouver, jamais vous aurez une belle voiture, jamais vous aurez une belle maison. Vous n'aurez pas le droit d'avoir des beaux voyages. Il n'y a aucun moment dans toute la parole de Dieu où Dieu s'oppose à ces choses-là. Ce qu'Agé va adresser, ce n'était pas que les maisons c'était un problème, c'était que leur priorité était dans un problème. C'est qu'alors qu'ils bâtissaient des belles maisons, des business, un avenir, un confort, la maison de Dieu était négligée. Et c'est ça qu'Agé va adresser. Les belles maisons n'étaient pas un problème. C'est que les belles maisons prenaient la place de Dieu dans leur vie. Et ça, c'était le problème. Le peuple négligeait et repoussait plus tard la construction de la maison de Dieu et l'avancement du royaume de Dieu. Ils bâtissaient leur maison, ils bâtissaient leur projet, bâtissaient leur confort, bâtissaient leur retraite, bâtissaient leur vie, mais négligeaient la maison de Dieu. Leur temps, leur énergie, leur argent, leurs ressources étaient investis dans leur vie. Et Agé va leur dire, arrêtez de procrastiner l'œuvre de Dieu. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de remettre à plus tard, de vous investir à honorer Dieu par vos vies maintenant. Ne négligez pas, ne repoussez pas à plus tard le royaume de Dieu. Et ça, c'est un principe qui est partout dans la Bible. C'est partout dans la Bible que la volonté de Dieu n'est jamais plus tard. Que de vivre pour Dieu ou d'honorer Dieu avec nos vies, c'est jamais « Ah, quand j'aurai plus de temps, quand ça sera une saison plus adéquate pour ça, je le ferai. » Dans la parole de Dieu, d'un bout à l'autre, il y a ce principe-là que la volonté de Dieu, ça se vit aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je dois honorer Dieu. C'est aujourd'hui que je dois servir Dieu. C'est aujourd'hui que je dois répondre à l'appel de Dieu. Jésus va dire lui-même dans Jean chapitre 9, il va dire « Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Ça, c'était Dieu le Père. « Les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. » La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Ce que Jésus est en train de dire, si on le résume, c'est qu'il est en train de dire, il faut accomplir ce que Dieu nous appelle à faire et à devenir maintenant, pendant que vous êtes ici, parce qu'un jour, plus personne ne sera ici. Et pendant que vous êtes là, vous êtes appelé à faire les œuvres que Dieu t'appelle à accomplir aujourd'hui, parce qu'un jour, tu ne seras plus là. Et c'est la pensée de vivre pour Dieu aujourd'hui. C'est la pensée de dire pour chaque personne au son de ma voix ce midi, de dire, Seigneur, je réponds à ton appel aujourd'hui. Il y a des gens dans cette salle qui ont un appel sur votre vie, mais vous procrastinez l'appel de Dieu. Parce que tu dis, quand je serai dans une saison plus facile, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'argent, quand mes études seront finies. Mais Dieu dit ce matin, la volonté de Dieu, ma volonté, c'est aujourd'hui. Ça veut dire, je m'attends que tu répondes oui aujourd'hui, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Alors ma responsabilité, c'est de dire, Seigneur, je dis oui à ta parole maintenant. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Je dis oui à toi, je te dis oui à toi, Seigneur, je veux bâtir ton royaume aujourd'hui. Je veux faire ta volonté aujourd'hui. Et de Agé à Jésus jusqu'à nous, aujourd'hui, c'est cette décision qu'on doit prendre ensemble de dire, Seigneur, je veux faire de ton royaume, de ton nom, de qui tu es, ma priorité numéro un, aujourd'hui. Pas juste plus tard. Et il y a des mots qu'on devrait bannir de notre vocabulaire. Il y a des mots qu'on devrait jamais entendre ici. Qu'on ne devrait jamais se dire les uns aux autres. On dit, Seigneur, des mots comme, je vais faire de toi, Seigneur, ma priorité numéro un, mais quand j'aurai plus de temps, je vais te dire quelque chose, ça n'arrivera pas que tu auras plus de temps. Ça n'arrivera pas. Depuis 10 ans que je suis marié, depuis 10 ans que je sers Dieu, j'ai pas plus de temps que j'en avais il y a 10 ans. S'il y a juste quelque chose qui se passe, c'est que j'en ai encore moins que j'en avais. Tu n'auras pas plus de temps. On devrait bannir de dire, Seigneur, je vais te servir, je vais te dire oui, mais quand j'aurai plus de temps. Ou Seigneur, tu vas être ma priorité quand les conditions vont être meilleures. Ou Seigneur, tu vas être ma priorité quand j'aurai plus d'argent, je vais pouvoir t'honorer avec mes finances. Qu'est-ce qui va arriver? Si tu n'honores pas Dieu avec le peu que tu as maintenant, tu ne vas pas l'honorer plus tard quand tu en auras plus. Je connais des gens qui, dans les standards de la société, gagnent très peu, mais qui honorent Dieu avec leurs finances d'une manière incroyable. Mais je connais des gens qui sont des millionnaires, qui se disent qu'ils n'ont pas les moyens de donner la dîme. Il y a quelqu'un qui m'a dit un moment donné, lorsqu'on parlait de générosité, puis moi, ça a été toujours assez facile dans mon cas parce que les salaires ont toujours été assez petits. Quand tu es dans le ministère, c'est pas un enjeu. Ma dîme, moi, c'est pas, ça ne me paye pas un char, ma dîme. Okay? Fait que, il y en a qui arrivent ici avec des voitures, des grosses voitures. Il y en a qui disent, moi, si je donne ma dîme, ça me coûte tant, ça vaut ci, ça vaut aussi, ça vaut ça. Moi, ça vaut pas grand-chose. Fait que ça a toujours été plus facile. Puis ce monsieur-là m'a toujours dit, ouais, je comprends pour toi, c'est peut-être plus facile. Mais regarde pour moi. Moi qui gagne 200 000 et plus par année, si je donnais une dîme, c'est 20 000 et plus par année. Je suis parfait, viens, on va prier ensemble. Alors, Seigneur, je prie que ta bénédiction sur cet homme diminue pour que ses revenus diminuent, Seigneur, pour qu'il arrive à un moment où il va être capable de donner sa dîme d'une manière qui ne fera pas mal. Et là, le monsieur, non, c'est bon, c'est bon. Si tu n'es pas généreux, si tu n'honores pas Dieu avec le peu que tu as, tu ne le feras pas non plus. Quand t'en as beaucoup. C'est pas une question de salaire, c'est une question de cœur. Alors, je dois enlever de mon vocabulaire. Ah, quand j'en aurai plus de temps, plus d'argent, ça n'arrivera pas. La réalité, c'est qu'on devrait faire comme Agé enseignait, c'est de dire maintenant, je veux le faire aujourd'hui. Seigneur, voici le temps que j'ai, je te l'offre. Voici les ressources que j'ai, je te l'offre. Voici les dons et talents que tu m'as donnés aujourd'hui, voici ce que je t'offre. Seigneur, ça se conjugue au présent, la volonté de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Je veux pas procrastiner, je veux prioriser. Et ce qu'Agé va dire, non seulement il les challengeait parce qu'il repoussait tout le temps plus tard, il va leur dire maintenant, voici la solution, c'est de prioriser les choses de la bonne manière. La solution pour vous, c'est de revoir vos priorités. Parce que c'est fascinant. Agé ne va pas condamner les gens d'avoir des belles maisons. Il ne va pas les condamner d'avoir des beaux projets. Il ne va pas les condamner de réussir, puis de bâtir une vie, puis de bâtir un héritage. Jamais Agé va les condamner pour ça. Ce qu'Agé leur reprochait, c'était qu'ils avaient perdu de vue ce qui était le plus important. Et c'était une question de priorisation pour ces gens-là. Manque pas ceci ce midi. Une bonne chose mal priorisée peut devenir une mauvaise chose. Et dans tout ce qu'Agé va adresser, il ne va jamais dire que les maisons, c'était une mauvaise chose. Au contraire, c'est une bonne chose. Dieu veut qu'on ait un toit sur notre tête. Dieu veut que tes enfants soient dans un environnement sécur, que tes enfants aient un futur. Il veut que tu subvenir à tous tes besoins. Tout ça, c'est bon. Mais si, par exemple, ta maison prend la place de la maison de Dieu, ta maison qui est une bonne chose devient une mauvaise chose. C'est la même chose dans tous les aspects de ta vie. Dieu nous a créés relationnels, on a été créés pour être en relation avec les autres. Mais s'il y a des relations dans ta vie qui prennent la place de Dieu, ces relations-là qui pourraient être bonnes ne deviennent pas bonnes parce qu'elles ne sont pas à bonne place. Et c'est la même chose pour n'importe quoi, que ce soit les voitures, les voyages, toute ta vie, tes projets. Si ces choses-là prennent la place de Dieu, ces bonnes choses qui étaient à la base des bonnes choses peuvent devenir des mauvaises choses simplement parce qu'elles sont mal priorisées dans ta vie. C'est pour ça que Jésus va dire, faites donc du règne de Dieu, tout le royaume de Dieu, et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, prends tout ce qui est la parole de Dieu, prends tout le royaume de Dieu. Faites de tout le royaume de Dieu votre préoccupation première. Jésus ne va pas dire votre unique préoccupation. Il va dire de votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Et là, toutes les choses, c'est tout le reste. C'est toute la maison, la voiture, les projets, la retraite, tout le confort, tout ce qui vient après. Mais ce que Jésus va enseigner, c'est pas un choix entre un ou l'autre. Il va dire maintenant, c'est soit le royaume de Dieu ou tout le reste. Non, il va dire, ça devrait être votre préoccupation première. Pas que le reste ne nécessite pas que tu te préoccupes de ça. C'est juste que ce qui doit être en numéro un, c'est lui. Dieu ne veut pas être deuxième dans ta vie. Et c'est ce que Jésus a enseigné, c'est ce que Agé enseigne. Dieu nous appelle à garder ces choses-là au bon endroit. Agé n'a jamais enseigné, c'est soit votre maison ou la maison de Dieu. C'est pas ça qu'Agé a dit. C'est pas une ou l'autre. C'est une avant l'autre. C'est ça qu'il enseignait. Et d'un couvert à l'autre de la Bible, il y a ce principe-là de garder Dieu en premier. Ce qui va prouver que Dieu est vraiment numéro un dans ta vie. Il y a des principes dans toute la parole de Dieu avant même, dans les premiers chapitres de la Bible, dans Genèse, vous allez les retrouver, il y a des principes que Dieu a enseignés depuis les tout débuts de la Bible qui allaient amener les gens, le peuple de Dieu, à garder Dieu en priorité. Qu'est-ce qui va prouver vraiment que Dieu est premier dans ta vie? Qu'est-ce qui va prouver que Dieu est vraiment ta priorité? Et dans la Bible, il y a un principe qu'on appelle le principe des premiers fruits dans la Bible. Et ça, tu vas retrouver ce principe-là bien avant même la loi de Moïse, les 10 commandements que Moïse a reçus par révélation de Dieu, bien avant même que cette loi-là, le principe des premiers fruits a été instauré dans la Bible pour amener les gens et le peuple de Dieu à garder Dieu en premier dans leur vie. Jusqu'à âger, mais jusqu'à même plus tard dans la Bible, on va le retrouver. Il faut comprendre qu'à l'époque de la Bible, c'était des peuples qui vivaient d'agriculture, c'était des peuples qui vivaient de l'élevage de bétail principalement. Et le principe des premiers fruits, c'était qu'alors que tu as une récolte, alors que tu as du bétail qui vont donner naissance à d'autres bétails, lorsque par exemple tu avais une récolte, mais les premiers fruits de cette récolte-là, les premières pousses, les premières récoltes, tu vas les offrir à Dieu en guise d'adoration et de reconnaissance pour tout ce qu'il te donne. Ça veut dire pas à la fin de la saison, quand tu vas déjà avoir rempli tes greniers, tout va être plein, tu auras mangé, vous êtes plein, tout est là, puis vous avez tout eu ce que vous avez besoin, puis là, vous avez un surplus, tu vas le donner à Dieu. Non. Ce qui est instauré dans la parole de Dieu, c'est dès les premières pousses, les premiers fruits de ta récolte, tu vas le prendre en premier et en priorité, et tu vas les offrir à Dieu pour te prouver à toi-même que c'est vraiment lui ta priorité. Et c'est la même chose avec le bétail. Lorsque tu avais un bétail puis tu avais un animal qui allait donner naissance pour la première fois, un premier-né, de cet animal-là, vous allez prendre cet animal-là, vous allez l'offrir à Dieu simplement pour vous rappeler et en guise d'adoration et de reconnaissance pour dire, Seigneur, tout ce qu'on a, tout le bétail, toute la récolte, toutes nos vies, on te le doit à toi, Seigneur. Et on t'offre le premier de nos fruits, le premier né de notre bétail pour t'offrir la louange, la reconnaissance et nous prouver à nous-mêmes que tu es numéro un. Alors ça, c'est le principe des premiers fruits. Dans Deutéronome 23, on lit comme ça. Tu apporteras dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Les prémices, ça veut littéralement dire comme les premiers commencements, les débuts. Alors, Moïse est en train de dire, c'est comme si les débuts de tes premières récoltes, aussitôt que tu as quelque chose à offrir à Dieu, tu vas l'offrir. Aussitôt qu'il y a un premier fruit, tu n'attends pas que tu en aies d'autres. Donc, les prémices des premiers fruits, boum, tu l'offres à Dieu. Tu l'offres à Dieu tout de suite. Et le texte ne dit pas que tu vas apporter toutes tes récoltes. Non, c'est juste la prémisse des premiers fruits. Le premier. Aussitôt que tu peux le donner, tu le donnes. Avant de profiter, avant de manger, avant de marchander tout ça, avant de marchander tes récoltes ou ton bétail, vous allez offrir les premiers fruits à Dieu. Tu offres à Dieu en premier parce qu'il est premier. Et ce qui va prouver que Dieu est réellement ta priorité, ce qui va prouver que Dieu est réellement numéro un dans ta vie, et le plus important, c'est que tu vas prendre les premiers de tes revenus, le premier fruit de tes revenus, puis tu vas lui offrir. Pas beaucoup d'amen à ce statut du message, mais ça va. Je vais inviter Thomas à venir me rejoindre avec nos fruits. Est-ce qu'on pourrait, en même temps que Thomas arrive, juste le remercier Thomas, 3 réunions, il est là, fidèle au poste, tout le temps. Célibataire, je veux juste dire ça comme ça. Du meilleur de mes connaissances, en tout cas. C'est les premiers fruits. Aussitôt que tu as une récolte, je l'offre à Dieu. Parce que c'est lui qui est en premier. Et c'est le principe de la dîme qui est très similaire à celui des premiers fruits. Est-ce que vous êtes encore confortable sur votre chaise? All right. Le principe de la dîme, le mot dîme, veut littéralement dire un dixième. Ça veut littéralement dire comme 10 %. Mais bibliquement parlant, la dîme, ce n'est pas seulement 10 %. C'est le premier 10 %. Parce que qu'est-ce qui va prouver que Dieu est vraiment ma priorité? C'est pas que je vais lui donner à la fin si j'ai déjà tout subvenu à mes besoins, s'il y avait tout le reste, j'ai fait mes voyages, j'ai acheté mes affaires, je me suis abonné à Netflix, à Disney, à ci, à ça, j'étais abonné à 18 affaires différentes, j'ai tout fait ça, puis s'il m'en reste, Seigneur, je vais te le donner. Le principe de la dîme, comme les premiers fruits, c'est de dire, Seigneur, je vais t'offrir le premier 10 %. Et ça va prouver que tu es vraiment premier dans ma vie. C'est qu'avant de dépenser ailleurs, avant d'investir dans plein d'autres choses, avant de faire des voyages, avant de tout faire le reste, Seigneur, je veux juste prendre ce premier 10 %-là, te l'offrir en guise d'adoration et de reconnaissance, parce que je reconnais que tout ce que je suis, je te le dois. Tout ce que j'ai, je te le dois. Seigneur, c'est grâce à toi que je suis ici. Un jour, ta main est venue me sauver d'où j'étais, et le moindre que je puisse faire, c'est de prendre une portion de ça, le premier 10 %, et te l'offrir, Seigneur. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Alors, voici ce que ça veut dire concrètement. J'ai 10 pommes ici. Lorsque voici tout ce que Dieu me donne, le principe des premiers fruits, le principe de garder Dieu en priorité, c'est de dire, voici la première que j'ai. Pas quand j'ai eu ça, puis j'ai eu les 10, puis il m'en reste encore, j'en donne. Non, la première que j'ai. La Bible va dire de consacrer les premiers fruits à Dieu. Littéralement, consacrer là, dans la Bible, ça veut dire mettre à part. Ça veut dire, Seigneur, je le mets à part pour toi. C'est pas juste, je te le donne à contre-cœur. Non, 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 Seigneur, je le consacre à toi. Parce que je reconnais que les 9 pommes qui me restent viennent de toi. Puis je sais, ce matin, il y en a ici, tu dis, moi, je travaille fort. Je travaille fort pour mon argent, je travaille fort pour subvenir à mes besoins, subvenir aux besoins de ma famille, puis c'est vrai. Mais si tu recules, si tu vas à la racine de toute chose, c'est Dieu qui ouvre la porte pour que tu aies cet emploi-là. C'est Dieu qui te donne la santé pour garder ton emploi. C'est Dieu qui t'a protégé, qui permet que tu aies ton emploi. C'est lui qui t'a donné les dons, qui t'a donné l'intelligence de gagner ta vie. À la racine de toute chose, tout ce que j'ai, ça y appartient. Tout ce que je suis, je lui dois. Tout ce que j'ai, c'est par grâce. Il y en a qui l'ont pas, cette grâce-là. Tu dis, moi, je gagne ma vie. Il y en a qui peuvent pas la gagner leur vie. Alors, tout ce que j'ai, Seigneur, t'appartient. Et le moindre, la moindre des choses que je peux faire, c'est de dire, il y a une portion de ça que je veux t'offrir, Seigneur, parce que je veux t'adorer, te remercier, être reconnaissant pour ce que tu fais. Et tout le reste qui va servir à la maison, la voiture, les enfants, les voyages, les ci, les ça, les activités, les sorties, les restos. Seigneur, tu me donnes tout ça, tu me laisses tout ça. Tout ce que tu me demandes, c'est de t'honorer avec ça. Et moi, ce matin, je veux amener des gens à dire, Seigneur, je le fais pas en donnant à l'Église, je le fais devant Dieu. Et Seigneur, je veux reconnaître dans mon cœur que je donne ça pas parce que je le fais avec un rituel religieux, je le fais en adoration, dire Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes, merci de la capacité que tu me donnes à travailler, merci pour mes ressources, merci pour ce que tu fais, Seigneur. Et quand je fais ça, je suis en train de prouver que Dieu est ma priorité. Qui n'est pas juste à la fin s'il m'en régionne, non, je prouve que c'est ma priorité parce que, comme dans le peuple dans l'histoire avec Agé, le peuple dépensait le meilleur pour leur vie à eux. Ils investissaient le meilleur pour leur projet, leur maison, et ils donnaient à Dieu le reste. Plus tard, quand ça arrivera, quand on aura plus, s'il nous en reste, on en donnera à Dieu. Le peuple de Dieu dans Agé faisait ça, où on dépense le meilleur, puis on donnera à Dieu le reste. Ce que Agé leur enseigne, c'est l'inverse. C'est qu'on est appelé à donner à Dieu le meilleur, et lui va bénir le reste. Le principe biblique derrière les premiers fruits, derrière la dîme, c'est qu'alors que je vais donner le premier 10% à Dieu, il va prendre plaisir à bénir le 90 qui reste. Mais le peuple gardait le 100% sans la bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'Agé va dire, vous travaillez fort, mais vos poches ont des trous. Vous êtes habillés, mais vous avez froid. Vous essayez par vos propres forces de gagner vos vies, de vous gagner un confort, d'être bien. Mais il y a une mesure de bénédiction que si vous faites juste décider d'honorer Dieu avec ça, il va prendre plaisir à bénir et mettre sa faveur sur vos vies. Et Dieu ne demande pas de quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Parce que Dieu a prouvé son amour, pas juste par ses paroles, mais par ses actions. Dieu n'a pas juste dit « Je t'aime, David ». Non, Jésus représente que Dieu a donné son Fils parce qu'il t'aimait. Qu'est-ce qui va prouver mes priorités? C'est ce que je dis ou c'est ce que je fais? Dieu lui-même a prouvé son amour en envoyant son Fils. Pas juste en le disant à Dieu du ciel. Il a envoyé son Fils sur la croix pour toi et pour moi. Parce que tu étais sa priorité. C'était sa priorité. La Bible va même dire qu'alors que nous, on ne pensait même pas à lui, on était rebelles, on était loin de lui, mais Dieu t'aimait déjà. Il ne l'a pas juste dit, il l'a prouvé alors que son Fils est mort pour toi quand tu ne pensais même pas à lui encore. Dieu ne l'a pas juste dit, il l'a fait. Je le dirais comme ça aujourd'hui. Un budget va mettre de l'ordre dans tes finances, mais la dîme va mettre de l'ordre dans ton cœur. Et ultimement, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut ton cœur. Je le dirais comme ça, puis c'est enregistré. Là. Dieu ne veut pas ton argent, l'Église ne veut pas ton argent. Dieu veut ton cœur. Il ne veut pas ton argent, il veut ton cœur. Mais il ne peut pas avoir ton cœur si l'argent est plus important dans ton cœur que lui-même. Fait qu'un budget va mettre de l'ordre dans tes finances, puis j'espère que tu en as un. Mais la dîme va mettre de l'ordre dans ton cœur pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui est vraiment premier? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Amazon? Montre-moi ton reçu bancaire mensuel, je vais te montrer c'est quoi que tu adores. Dieu veut ton cœur. Il y a une histoire vraiment populaire. Une histoire que, honnêtement, quand tu es pasteur, tu as entendu cette histoire-là, c'est certain. C'est un témoignage durant la période du Moyen-Âge. Il y a eu plein de moments de réveil. Puis c'est très connu parce que ça a été un réveil vraiment, vraiment répandu partout. Puis il y a vraiment un grand, grand réveil au Moyen-Âge. Puis il y a des soldats qui se sont tournés vers Jésus, le message de Jésus qui s'est juste répandu partout. Puis c'est devenu vraiment, vraiment connu parce que c'est un grand, grand réveil. Puis ce réveil-là touchait des militaires de l'époque, des chevaliers de l'époque, des gens qui travaillaient dans les armées, qui servaient dans les armées. Puis alors que ces soldats-là donnaient leur vie à Jésus, se faisaient baptiser. Il y avait quelque chose de vraiment particulier dans une région particulière qui ça prenait place, parce que on voulait baptiser les soldats, les chevaliers avec leurs épées. Puis alors qu'on arrivait pour les baptiser, les chevaliers sortaient l'épée et s'assuraient que l'épée ne rentre pas dans l'eau. Alors on baptisait ça, mais eux autres voulaient pas qu'on baptise l'épée. On la sortait pas dans l'eau, pas mon épée. Parce qu'ils disaient, non, mais moi, là, moi, je tue des gens, là. C'est des mercenaires. C'est des gens. Non, moi, je veux suivre Jésus, mais pas mon épée, par exemple. Et ce que je trouvais vraiment fascinant, c'est qu'aujourd'hui, ça a changé. Mais pas tant que ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont dire, Seigneur, moi, je veux te suivre, Seigneur. Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, je te donne mes rêves, je te donne mon avenir. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mes dimanches matins, Seigneur. Mais alors que je me fais baptiser, je sors mon portefeuille. Pas mon portefeuille, par exemple. Pas mon portefeuille! Et si Jésus était ici ce matin, Jésus dirait, je suis venu te sauver à 100% qui tu étais. Et je suis venu pour être le Seigneur de ta vie, pas juste une portion de ta vie. Et je suis venu pour régner sur tous les aspects de ta vie. C'est vrai pour ton avenir, c'est vrai pour tout ce que je t'ai donné comme don, talent, tout ce que tu as, je suis venu régner sur ta vie. Tes ambitions, soumets-les-moi. Tout ce que tu veux, tes rêves, tu dois me les soumettre. Tout ça, tu dois me le soumettre, mais ça inclut aussi ton argent. Dire, Seigneur, viens régner sur toute ma vie, pas juste une portion de ma vie. Et Seigneur, ce qui va prouver mes priorités, c'est si tous les aspects de ma vie sont alignés avec ta parole. Je t'invite à te lever à ta place, je termine dans quelques instants. Dans Agé 2, alors que Agé va vraiment challenger tout le peuple dans le chapitre 1. Au chapitre 2, c'est vraiment différent. Le ton a vraiment changé parce qu'alors que le peuple va se tourner vers Dieu en disant « Non, c'est vrai qu'on ne peut plus repousser à plus tard. On doit bâtir l'œuvre de Dieu maintenant. On doit recommencer à construire le royaume de Dieu maintenant. On doit commencer à honorer Dieu maintenant. » Agé va arriver, il va commencer juste à déballer toutes les promesses de Dieu pour le peuple qui allait aligner leur vie avec la parole de Dieu. Il va juste commencer à dire, voici ce que Dieu va faire. Si vous bâtissez sa maison, si vous mettez Dieu en priorité, voici ce que Dieu va faire. Puis voici ce que Dieu va faire pour vous. Puis voici qui va être pour vous. Il va dire au verset 4, fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel. Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous, quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore, dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, et les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient, et l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Les gens qui disent, ouais, mais si on bâtit la maison de Dieu, qu'est-ce qui va arriver à nos maisons? Dieu est en train de leur dire, l'or et l'argent m'appartiennent. Si vous bâtissez ma maison, ne pensez-vous pas que je suis capable de pourvoir pour vous? La gloire de ce dernier temple, alors qu'ils sont en train de reconstruire ce temple-là, sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Loin de moi la pensée qu'alors que je vais honorer Dieu avec mes finances, Dieu va juste me bénir financièrement. Est-ce que je crois qu'il peut le faire? Oui, mais vraiment pas. C'est pas ça qu'Agé enseigne. Parce qu'il dit alors que vous allez bâtir la maison de Dieu, bâtir l'œuvre de Dieu, mettre vos ressources pour la maison de Dieu. Il promet plein de choses. Il promet que son esprit allait être avec eux, qu'elle allait pourvoir à leurs besoins, que la gloire allait être sur leur maison, que la paix allait être avec eux. Alors que lorsque tu honores Dieu avec toutes tes finances et tes ressources, c'est pas juste tu donnes 10$, tu donnes 100$. Ça, c'est l'évangile de prospérité qui est pas biblique, qui a pas rapport. Mais je crois, par contre, ce qui est biblique, c'est que partout dans la Bible, c'est qu'alors que tu vas honorer Dieu avec tes finances, Dieu va prendre plaisir à te bénir et à mettre sa faveur sur toi. Pas seulement financièrement, peut-être financièrement, mais dans plein d'autres aspects aussi. Dans plein d'autres aspects. Puis je termine avec cette histoire qui est cette personne-là qui voulait pas que je la nomme, mais qui est la mère de mes enfants. Un des témoignages de Val, lorsqu'elle était tout jeune, toute jeune ado, jeune adolescente. Puis alors qu'elle était à l'église, comme ce midi, puis on partageait, il y avait une vision pour un projet missionnaire, un voyage qui allait dans un pays pauvre juste pour construire des choses, aller prêcher Jésus, aller aimer des gens, puis appeler des gens de l'église à donner pour ce projet-là. Puis Val, toute petite dans la salle, un enfant là, qui est là, puis elle dans son cœur, de pas encore donner sa vie à Dieu, mais elle est juste touchée. Puis elle dit, elle a reçu des cadeaux de Noël de sa grand-maman qui était une 60aine de dollars. Puis alors qu'elle écoute ça, elle dit, dans son cœur, c'est comme si, faut que tu donnes ton 60$. Puis la petite Valérie qui est là, qui sait pas, la semaine, elle prend sa tirelire, elle sort ses 20$, puis elle arrive le dimanche d'après pour le donner à la responsable du voyage missionnaire. Puis la madame était tellement mal à l'aise, elle dit, mais non, voyons donc, c'est juste un enfant. Mais non, garde tes sous, c'est correct, garde tes sous. Puis les parents de Val, ils disent, non, c'est vraiment elle, elle avait vraiment juste sur son cœur de donner pour ça. C'est vraiment elle qui nous l'a demandé. Puis la madame prend ça un peu malaisée, dit, OK, tu petite fille qui est là, c'est, t'aurais pu t'acheter plein de choses. Puis là, tu sais, 60$ quand t'es une enfant, t'es riche, là, t'es vraiment riche. Puis prends ça, puis quelques semaines passent, puis alors que les semaines passent, ils font le voyage missionnaire, il y a une œuvre extraordinaire, puis quelques semaines plus tard, ils reviennent à l'église, comme en ce moment, pour raconter tout ce que Dieu a fait pendant le témoignage, puis remercier l'église pour leur vision, puis la mission, puis la générosité qui a permis le voyage. Puis alors que la personne commence juste à raconter les témoignages, puis qu'est-ce que Jésus a fait pendant ce voyage-là, il y a la petite Valérie qui est assise dans la salle, puis qui se met à pleurer. Puis elle se met à pleurer, puis elle pleure, puis elle pleure, puis elle pleure, puis elle pleure. Puis à la fin de la réunion, quelqu'un est avec elle, puis elle dit, je veux donner ma vie à Jésus. Petite Valérie, petite dame. Ce qui m'a frappé là-dedans, c'est qu'alors que la petite Valérie donne son petit 60$, alors qu'elle juste garde, Seigneur, pour toi. Je sais pas pourquoi, je comprends rien. Même pas se donner sa vie à Dieu encore, mais juste, je donne. Dieu peut te bénir de plein de façons que tu n'aurais jamais imaginé. Parce que je trouvais ça extraordinaire. Dans tout le plan parfait de Dieu, qui est la petite Val qui donne pour le voyage missionnaire, lorsqu'ils reviennent raconter les témoignages, c'est dans cette réunion-là que Dieu dit, je t'attendais dans le détour, Valérie, parce qu'aujourd'hui, tu vas me donner ta vie. Aujourd'hui, mon amour et ma grâce rentrent dans ta vie à toi. Alors que tu as donné là, voici maintenant comment Dieu va te bénir. Fait que c'est pas juste de l'argent que Dieu va te donner, puis les témoignages de « j'ai donné, puis quelqu'un m'a donné une voiture, peut-être. » Mais tu n'as aucune idée comment Dieu peut te bénir. Agé va dire « c'est avec une paix que tu ne pourras jamais avoir ailleurs. Il y a des portes que je vais donner, l'or et l'argent m'appartiennent. Puis mon esprit va être avec vous. Puis je vais ouvrir des portes. Puis ma faveur est là. Si j'honore Dieu avec tout ce que j'ai, je te garantis qu'il va prendre plaisir à bénir ta vie et à mettre sa faveur sur ta vie. Puis je vais te dire quelque chose en terminant le message aujourd'hui. Si tu ne nous fais pas confiance pour administrer les finances, donne à une autre église. Donne pas ici. Si tu ne nous fais pas confiance, donne ailleurs, mais donne quelque part parce que c'est entre toi et Dieu. Et tu ne peux pas dire, je ne fais pas confiance aux gens. Non, Dieu dit, donne, puis je m'occuperai d'eux autres. Mais si tu ne nous fais pas confiance, donne dans une autre église. Si ce n'est pas ton église, donne pas ici, donne ailleurs. Si tu écoutes ce message en ligne, donne dans ton église. Mais donne pour ton cœur à toi. Donne à Dieu pour ton âme à toi. Et si tu donnes ici, puis dans 3 mois, tu viens me dire, pasteur JP, j'ai honoré Dieu avec mes finances, puis ça n'a rien donné, on est prêt à te rembourser, si tu veux. C'est drôle, mais je suis sérieux. C'est pas à nous que tu donnes. On donne pas à l'Église. On donne à travers l'Église, mais on donne à Dieu en premier. On donne à Dieu à travers l'Église. Et Dieu bâtit son œuvre à travers l'Église. Mais si tu ne fais pas confiance, donne à une autre Église. L'œuvre de Dieu va continuer partout. Vous savez quoi? Si tu ne donnais pas déjà, toutes les lumières ont allumé ce matin-là. Tout fonctionnait déjà avant que tu donnes. L'Église n'a pas besoin de ton argent. On a besoin de ton argent pour continuer à avancer, continuer à bâtir. Mais si ce n'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Dieu me prouve en 2 ans qu'il va bénir, il va pourvoir toute chose. Mais donne pour toi. Donne pour prouver à ton âme que Dieu est vraiment premier. Donne pour dire, Seigneur, c'est toi qui es premier. C'est pas Amazon, c'est pas ma maison, c'est pas ma nouvelle voiture. Ce qui est en premier dans ma vie, c'est toi, Seigneur. Alors, Seigneur, moi, je te prie pour chaque personne ce matin qui est ici. Notre cœur est devant toi, Seigneur, en disant, Seigneur, viens faire ce que juste toi peux faire dans nos cœurs. Seigneur, viens traduire dans le cœur de chacun selon ce qu'il a besoin de prendre ce matin. Mais Seigneur, on veut dire que notre prière et notre cœur, c'est que tu sois numéro 1 dans notre vie. Ce qui va prouver nos priorités, Seigneur, ce n'est pas juste ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on fait. Et Seigneur, moi, je veux te prier ce matin, peut-être pour chaque personne qui repoussait à plus tard de marcher avec toi, qui repoussait à plus tard peut-être l'appel que tu as sur leur vie ce matin. Je prie qu'il y ait des décisions qui se prennent ce matin de dire, je vais arrêter de repousser dans une autre saison, je vais arrêter de repousser dans un moment éloigné plus tard. De marcher avec Dieu, Seigneur, c'est aujourd'hui. Il y a des appels qui vont être décidés aujourd'hui. Il y a des gens qui vont dire oui à toi, Seigneur, aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie que dans tous les aspects de nos vies, que ce soit dans notre appel, dans notre temps, dans nos ressources, dans notre argent, Seigneur, qu'il y en a qui prennent la décision de dire, pas juste plus tard, Seigneur, mais aujourd'hui, avec la portion que tu m'as donnée aujourd'hui, je vais commencer à t'honorer aujourd'hui. Je vais te donner mes premiers fruits aujourd'hui. Je vais te donner le meilleur de qui je suis aujourd'hui, parce que c'est toi qui es la priorité numéro 1 de ma vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui le prient avec moi disent Amen. 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 On va juste prendre un chant. C'est pour ça qu'on le chante comme une prière.